Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Martino.
Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale.
On va parler du sujet dont j'aime le moins parler au monde, la mort. Vous savez, il arrive un âge dans la vie, tu sais, toi, 4-5 ans, peut-être quand tu as 4-5 ans, tu te rends compte que tu vas mourir. Puis tu te rends compte que les gens que t'aimes vont mourir. C'est un choc, c'est un traumatisme, vraiment. La plupart des gens mettent ça sous le tapis et continuent à vivre. J'ai jamais réussi à mettre ça sous le tapis. Jamais. J'ai peur de la mort, ça me révolte, ça me scandalise, j'aime pas en parler, j'aime pas penser à ça. Et coup sur coup, récemment, j'ai deux amis qui sont morts et ça m'est vraiment rentré dedans. Nous allons en parler parce que c'est le sujet du livre de Mathieu Bellil, qui est écrivain, il est professeur de littérature au collège Jean de Brébeuf à Montréal. Il a écrit un livre intitulé « Ce qui meurt en nous » et il dit « On ne sait pas parler de la vieillesse et de la mort. » Bonjour Mathieu Bellil.
Bonjour Richard Martineau.
Vous allez peut-être m'aider justement à pouvoir en parler. C'est oui. Vrai qu'on n'aime pas ça. Hein? Dès qu'on a une ride, on essaie de l'effacer par la chirurgie esthétique, etc. Oui. L'idée de la mort, l'idée de la maladie, l'idée de la vieillesse, on tente de balayer ça sous le tapis.
Oui, parce que il y a une dimension qui est normale. Par exemple, faisait référence à l'enfant de 5 ans. Oui. Puis je me souviens avoir eu cette conversation-là avec ma fille sur un trottoir venant de la garderie à 4 ans. Puis quand elle se rend compte que un jour les gens vont mourir, tu sais, il y a un choc.
Ah, oui.
Le réflexe humain qui est normal et sain, c'est qu'il y a un âge où il faut un petit peu enterrer ça. Il faut un peu l'oublier parce qu'on peut pas vivre constamment en pensant à ça. Par contre, que je constate dans notre société, dans nos sociétés, parce que c'est pas juste le Québec, c'est un phénomène, je dirais, occidental, je dirais même un phénomène du monde industrialisé, parce que je vois la même chose en Chine, je vois la même chose dans bien d'autres pays, c'est que, au fond, la mort devient une sorte de tabou, suscite un malaise, et je pense qu'il y a des raisons très profondes à ça, c'est que on se rend pas tellement compte de ça, mais on vit dans une société où il y a des valeurs très puissantes que sont la productivité, le rendement, la vitesse, la consommation. Puis au fond, c'est quoi vieillir, puis c'est quoi être malade, puis c'est quoi s'approcher de la mort? C'est ne plus être intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, quand on vieillit, on est dans la décroissance, on consomme moins, on produit moins. Et curieusement, et je dis vraiment curieusement, on est dans des sociétés les plus vieillissantes qu'on a jamais autant de personnes âgées et on ne sait pas quoi faire avec ça. Et moi, ça a été le révélateur de la pandémie. La pandémie, pour moi, c'est le révélateur d'une grande, profonde incapacité à parler de ces questions-là, puis même à parler des gens qui meurent eux-mêmes. On a beaucoup parlé du virus, puis on avait raison de le faire, mais on n'a pas beaucoup parlé des gens qui partaient.
Mais vous avez tout à fait raison, les vieux ne sont plus actifs dans la société. Par contre, ils ont quelque chose que nous autres, on n'a pas. Bon, appelons ça une certaine sagesse. Ils ont vu neiger, ils ont une mémoire. Ils pourraient être des transmetteurs. Au Japon, vous le savez fort bien, les personnes âgées sont vénérées au Japon, pas ici. On leur dit, le plus beau cadeau qu'on leur a fait, c'est l'aide médicale à mourir. On va vous aider à partir.
Oui, ça c'est, tu sais, l'aide médicale à mourir pour voir autour de moi des gens qui ont pu s'en prévaloir ou des gens dont les parents ont pu s'en prévaloir. Pour moi, c'est un débat qui était important, que c'était nécessaire. Cependant, on n'a pas tout réglé quand on a réglé ça. C'est-à-dire que ça c'est la dimension, on pourrait appeler ça un peu légale. C'est la dimension presque fonctionnaire du phénomène. Tu sais, comme comment on encadre ça. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a absolument pas répondu à la question de c'est quoi le sens des choses. Puis ça, est-ce qu'on peut c'est quoi aussi le sens de la souffrance? C'est quoi le sens du vieillissement? C'est quoi à quoi est-ce qu'on peut réussir sa mort?
Ouais,
c'est une drôle de question,
ouais,
hein?
Ouais.
Mais je veux dire, on est beaucoup dans réussir sa vie, mais la mort, c'est important. Je veux dire, c'est un phénomène dont on parle énormément dans la philosophie, dont on parle énormément aussi dans la religion. C'est peut-être pas un hasard si on a un peu discuté à aborder ça aujourd'hui, parce que dans le fond, on est probablement des sociétés où le cadre religieux s'est effondré de manière la plus spectaculaire. Donc, on a comme plus d'outils, ou pas beaucoup d'outils, disons, ou de cadre, ou de contexte pour parler de ça. Moi, même dans des funérailles, pour l'avoir vécu, je le raconte dans mon livre, tu sais, dans des funérailles, je sens même une gêne, même dans la funéraille, de parler de ça.
C'est-à-dire,
même quand il y a des moments où il faudrait en parler, on n'est pas capable. On est gêné, on ne sait pas, on a peur, une forme de superstition, j'ai aucune idée.
Souvent, on se met à rire. Moi, parmi les meilleures blagues que j'ai entendues, c'est souvent dans les funérailles, parce qu'on dirait que c'est comme un rire nerveux. On ne sait pas comment réagir. J'ai un ami qui est mort, il y a 5 minutes, sa veuve m'a envoyé, quand vont se tenir les funérailles et tout ça, ça va être où, à l'adresse. Et je regardais ça, puis je dis, oh mon Dieu, il va falloir j'aille à des funérailles. Et on est mal à l'aise.
Oh oui, c'est comme une épreuve, puis c'est quelque part, mon livre répond pas nécessairement tant que ça. Tu sais, j'ai pas des solutions toutes faites. C'est un livre que j'ai écrit au fil de la pandémie. C'est un livre que j'ai écrit aussi en collaboration, ben pas en collaboration, mais tu sais, dans différents contextes où j'ai pas observé moi-même des exemples. J'ai perdu des bons amis pendant la pandémie, dont un ami qui est pas mort du tout du coronavirus, qui est mort d'autres choses.
Okay.
C'est ça aussi, moi, j'ai l'impression que j'ai aussi, c'est que c'est comme si on a vécu ces deux dernières années-là avec une sorte d'impatience qu'à un moment donné, on va arrêter d'en parler du virus, puis on va arrêter de s'intéresser aux chiffres. On a beaucoup fixé notre attention sur les chiffres, les morts, mais on n'a pas tellement, je crois, réfléchi au fait que la mort est encore là. Tu sais, quand bien même il n'y aurait plus de virus, il y a d'autres affaires qui vont arriver à des bons amis comme celui que vous évoquez. Il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à nous réconcilier un peu avec ça. Parce que sinon, ça fait une société un peu superficielle où toute discussion un peu sérieuse doit être entrecoupée d'un rire ou d'une blague d'aller au fond des choses.
Vous avez parfaitement raison. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'avait très frappé d'un sociologue qui s'appelle Philippe Ariès, et ça s'appelait Histoire de la mort en Occident. Comment on a envisagé la mort à travers les années. Et Philippe Ariès arrive avec une idée totalement magnifique. Il dit, avant, les gens mouraient autour des siens, entourés des leurs. La mort n'était pas un tabou. Par contre, la naissance, d'où il vient, mon petit frère? Ah, c'est une cigogne qui l'a portée. Le tabou était la naissance. Il dit, maintenant, c'est l'inverse. Les enfants savent comment on fait des enfants. Souvent, assistent même à la naissance de leur petit frère, de leur petite sœur. Ils sont là pendant que la mère accouche. Mais aussi, qui est grand-papa? Ah, on l'a amené quelque part. Fait que le tabou s'est déplacé de la naissance à la mort, c'est vrai, hein?
Oui, je dirais même qu'il s'est déplacé de la sexualité à la mort, plus largement. C'est-à-dire que aujourd'hui, pis ça c'est un peu paradoxal parce que on aime penser qu'on vit dans une société où il n'y a pas de tabou, où on peut parler de tout. Et c'est vrai que la mort n'est pas un tabou, en tout cas pas un tabou absolu. Mais par contre, les rares fois où il est question de la mort, souvent c'est dans des films ou c'est dans des séries télé où ça va être un peu spectaculaire, où ça va être c'est-à-dire la mort telle qu'elle va nous arriver, c'est quelque chose qui est pas dans le discours. Et c'est paradoxal parce que on dirait qu'à mesure qu'on s'est libéré sur le plan de la sexualité, puis à mon avis c'est un grand progrès, puis il n'est pas question de revenir en arrière. On dirait que paradoxalement, plus on s'est libéré de ce côté-là, plus on est devenu gêné de l'autre bord. Plus on a de la difficulté à parler de ça. Donc, et moi, mon impression, là, parce que quand je parle à mes grands-parents, ben maintenant j'ai juste une grand-mère, mais quand j'ai parlé à mes grands-parents, eux, ils avaient une sorte de familiarité avec la mort. Ils savaient c'était quoi. Il savait comme c'était quoi vieillir, parce que vous avez parlé du Japon, mais il n'y a pas si longtemps au Québec, les personnes âgées vieillissaient parmi nous.
Oui.
Pas dans des lieux tenus à l'écart de la société et un peu comme des lieux protégés.
Ben oui.
Mais un peu en même temps protégés, mais rendus invisibles. Moi, c'est un des c'est une des préoccupations que j'ai, c'est qu'on ne veut plus voir les gens puis tu sais, dès qu'une personne meurt, je veux dire, ça prend 10 minutes, le corps est parti.
La personne, faut pas qu'elle soit en deuil trop longtemps. Là. La personne qui reste, à un moment donné, tu dis, hey, coudonc, ça fait une semaine, t'arrêtes pas de pleurer, prends-toi en main. Mais tu sais, même le deuil doit être express, là, doit être vraiment 2 jours. Et vraiment, c'est un livre très important, Mathieu Bellil. Et vous savez, je viens de faire mon testament. J'ai 60 ans, je viens de faire mon testament. Puis ça fait longtemps que les gens autour de moi disent, fais donc un testament. Tu sais, t'as 3 enfants, voyons donc. Puis dans ma tête, regardez à quel point je suis niaiseux. Dans ma tête, je me disais, si je fais pas mon testament, je mourrai pas. Le jour, c'est bizarre, je sais pas, j'avais de la difficulté à m'asseoir parce qu'il faut que tu discutes, bon, quand tu vas mourir, pis ça me tentait pas d'avoir cette discussion-là. Donc, votre livre, j'ai commencé à le lire, je l'ai pas terminé, je le lis lentement parce que c'est un sujet qui est pénible pour moi. Mais c'est un livre qui me fait du bien, puis il faut avoir cette conversation-là. Donc,
oui, pis, il faut pas oublier aussi que après les 3, c'est un livre où il y a 3 essais. Oui. Et à la fin, bon, on finit avec la lumière, parce qu'à un moment donné aussi, quand on a traversé ces lectures-là, il y a une libération qui vient avec ça. Parce qu'à un moment donné, il y a un apaisement qui peut venir avec ça. Moi, je le crois beaucoup. En tout cas, ben merci de.
C'est un très beau livre, un livre nécessaire. Mathieu Bellil, écrivain, professeur de littérature au collège Jean de Brébeuf à Montréal. Il y a encore des bons profs. Merci beaucoup, Monsieur Bellil.
Oui, en plus, je suis aussi chroniqueur dans différentes émissions, dont une balado de Fred Savard.
Oh my God! Vous le saluerez de ma part.
Ah oui.
Merci beaucoup, Mathieu Bellil. Salut. Bonjour. Alors, Mathieu Bellil, donc c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à Frédéric Houle, Florence Lamoureux, Charlotte Duquette à la recherche. Merci pour votre travail. Charlie Marchand, la régie de la réalisation. C'est Benoît qui prend la relève. Notre rencontre dans une demi-heure. On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.